Radio Okapi.
Le journal Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Début ce lundi 15 février 2021 au sein de la prison centrale de Makala du procès en appel anticorruption de 100 jours. Devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État et l'entrepreneur libanais Sami Djamal comparaissent tout en état malade et hospitalisé. Une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans l'attaque ce dimanche par des miliciens des dépôts d'armement au camp militaire Kimbembe dans la commune annexe et Kibati au quartier industriel dans la commune de Kampemba. Nous sommes à Lubumbashi. Une situation qui met à mal la sécurité de la ville et suscite plusieurs interrogations au sein de la population. Professeur Cyril Moussila, chef du département d'études doctrinales et des recherches stratégiques au Collège des hautes études et stratégies de la défense, s'entretient avec Billy Ivan Lutumba sur la question de la réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est à l'occasion de l'ouverture de la session spéciale des cours au sein de cette institution des forces armées de la RDC. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de suivre ce journal mis en onde par Mimi Kindou. Le procès en appel anticorruption des 100 jours a commencé ce lundi devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe à la prison centrale de Makala, confirme un avocat. Plusieurs sources affirment que les médias n'ont pas reçu l'autorisation de couvrir ces procès. Vital Kamerhe, ancien directeur des cabinets du chef de l'État et l'entrepreneur libanais Sami Djamal sont en train de comparaître tout en étant malade et hospitalisé après plusieurs reports des audiences. Rappel des faits avec vous, Jeff Ngoy.
La dernière audience remonte au mois d'octobre après que Vital Kamerhe et Sami Djamal se sont absentés pour raison de santé à l'audience de septembre au cours de laquelle toutes les parties avaient plaidé pour justifier le recours en appel. Incarcéré le 8 avril 2020, le procès en appel s'est bité à l'ordre procédural. Aujourd'hui, tous les aléas de procédure étant réglés, le procès recommence là où il s'est arrêté, confie le conseil du prévenu. C'est le 20 juin 2020 que le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a condamné le président de l'UNC à 20 ans de travaux forcés après avoir été reconnu lui et Djamal coupables de corruption aggravée et de détournement de près de 50 millions de dollars destinés au financement des maisons préfabriquées dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Kamerhe s'est vu également infliger 10 ans d'inéligibilité après son emprisonnement. Il est allé en appel et a maintes fois sollicité sa liberté provisoire sans succès. Puis ses avocats vont introduire un recours à la Cour de cassation pour demander de casser la décision de la Cour d'appel. Mais le 5 août de l'année dernière, cette demande a été rejetée pour une énième fois.
À quelques heures de la reprise de son procès, Vital Kamerhe a écrit hier dimanche une lettre adressée à plusieurs personnalités à l'issue d'une messe d'action des grâces organisée dans le but d'implorer la miséricorde de Dieu pour sa libération. L'ancien directeur des cabinets du président de la République écrit, je cite, « Ce lundi 15 février, compte tenu de mon état de santé, c'est plein de foi et d'espoir, regaillardi par toutes vos prières que je me présenterai devant le juge à travers mes avocats, sachant que Dieu aura touché le cœur des uns et des autres pour que la vérité soit dite. » Et qu'à l'issue de ces procès, je sois de nouveau parmi vous. Fin des citations. Alain Irung a lu cette lettre et nous en donne les détails.
Dans cette correspondance datée du dimanche 14 février 2021, Vital Kamerhe dit avoir suivi avec une vive émotion la tenue des différentes messes d'action de grâce dites à travers toutes les provinces de la RDC en sa faveur. Il poursuit en remerciant tour à tour le secrétaire général de son parti, l'UNC, ainsi que tous ses militants, les alliés de l'UNC, les mouvements et associations sympathisants et toutes les personnes éprises de compassion et de paix qui ont manifesté leur amour. Il remercie aussi les leaders politiques et culturels de la société civile et les autorités coutumières et les leaders religieux. Dans un autre paragraphe, Vital Kamerhe remercie son épouse Amida Chature pour son soutien inconditionnel, sans oublier ses enfants, ses neveux, ses oncles et sa mère. L'ancien directeur de cabinet du président de la République remercie aussi les autorités du pays qui lui ont permis de suivre les soins médicaux au centre hospitalier Nganda, d'où il écrit cette correspondance. Enfin, Vital Kamerhe appelle tous les militants et cadres de son parti, ainsi que tous ses alliés à soutenir sans faille toutes les actions tendant à améliorer le social de la population congolaise d'où qu'elle vienne. Il lance aussi un vibrant appel aux Africains pour jouer pleinement leur rôle pour le décollage du continent.
L'attaque ce dimanche des dépôts d'armement au camp militaire Kimbembe dans la commune annexe Ekibati au quartier industriel dans la commune de Kampemba, nous sommes là à Lubumbashi, par les miliciens a fait une dizaine de morts selon les sources officielles. Les victimes se recrutent aussi bien dans le rang des assaillants que celui des forces armées et de la population civile. Il y a également des interpellations. Cette situation qui met à mal la sécurité de la ville suscite plusieurs interrogations. Les détails, Jean Gandou.
24 heures après l'incursion des miliciens Bakata Katanga dans la ville de Lubumbashi, ce lundi matin, la capitale du cuivre a repris son ambiance habituelle. L'incident de ce dimanche est le énième d'une longue série. À ce propos, plusieurs questions taraudent les esprits. Qui sont les commanditaires de ces miliciens qui mettent en mal la sécurité de la ville? Combien sont-ils? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs revendications? Comment comprendre la facilité avec laquelle ils infiltrent la ville? Où vont-ils se réfugier chaque fois qu'ils sont repoussés par les forces de l'ordre? Et pourquoi les services de sécurité ne prennent-ils pas le devant pour contrer toute velléité des forces négatives? Encore que l'incident de ce dimanche était précédé d'une alerte faite sur les réseaux sociaux invitant les autorités à la vigilance car une attaque de la ville était planifiée pour ce jour. Ces questions, comme beaucoup d'autres que la plupart se posent, demeurent pour l'instant sans réponse. Et dans tout le cas, c'est la population civile qui en paye le lourd tribut. Ce qui est des troublés, certains d'entre ses membres sont chaque fois fauchés par des balles perdues et la psychose gagne du terrain. Au regard de tout ceci, l'ONG de défense des droits de l'homme, humanisme et droits humains suggère la réorganisation du système de sécurité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Le calme est revenu à Lubumbashi après cette énième incursion d'individus armés hier dimanche dans la ville. Ils ont tenté d'investir les dépôts d'armement au camp militaire Kimbembe situé dans la commune annexe et celui de Kibati dans la commune de Kampemba. Les FRDC attribuent cette attaque au mouvement sessionniste Bakata Katanga. Dans un communiqué rendu public hier dimanche soir, l'armée parle d'un bilan lourd, soit 12 rebelles tués et 5 capturés. Suivez plutôt le commandant adjoint du service des communications et informations des FRDC, le général Sylvain Ekenge. Je suis au téléphone par Billy Van Lutumba.
Il y a eu 12 assaillants neutralisés, dont 5 capturés, et il y a eu des armes individuelles, collectives récupérées, ainsi que des armes blanches et quelques autres effets militaires. Il y a également des blessés, il y a 3 militaires qui ont été tués dans cette attaque, et il y a 5 militaires et 1 policier blessé, 4 épouses et 1 enfant des militaires blessés, et j'ajoute aussi qu'il y a un enfant des militaires qui a été tué dans cette attaque.
Général Ekenge, c'est une énième incursion. On sait déjà que ce sont les Bakata Katanga. On connaît qui est à la tête des Bakata Katanga. Mais comment expliquer que l'armée ne fait que le comptage des morts, des hommes arrêtés? Pourquoi ne pas mettre directement la main sur l'instigateur? On ne sait pas le localiser.
L'instigateur, il est recherché en permanence. Tous les instigateurs, tous ceux qui ont la main basse sur les Bakata Katanga, sachent que tôt ou tard, les forces de défense et de sécurité mettront la main sur eux et ils subiront la rigueur de la loi. Et on les retrouvera.
En Ituri, 14 civils ont été tués, une dizaine de personnes blessées et une église incendiée au cours d'une nouvelle attaque dimanche des rebelles ADF en Dalia. Dalia, c'est une localité située à environ 120 km au sud-ouest de Bounia, dans le territoire d'Irumu. Des sources locales rapportent que ces rebelles ont contourné les positions des FRDC proches des Ringeti, dans la province voisine du Nord Kivu, pour commettre ces crimes. Des organisations locales demandent au gouvernement de lancer une offensive contre ces groupes armés qui s'installent en Ituri. Ezekiel Muzalia.
C'est vers 10h locales qu'un groupe de rebelles ADF a envahi la localité de Ndalia pendant que de nombreux habitants étaient à l'église et d'autres dans leur ménage. Ils se sont introduits dans une chapelle et ont abattu certains fidèles et d'autres habitants dans cette entité située sur la RN4. Les gens couraient dans tous les sens pour se sauver. C'est vers le soir que certains corps ont été ramassés après le retrait de ces rebelles grâce à l'intervention des FARDC. Le chef local précise que 12 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées et une dizaine d'autres blessés et le bâtiment d'une église incendiée. 2 autres personnes parmi les blessés sont mortes dans une structure médicale à Eringeti au Nord Kivu où ils ont été transférés après l'attaque. Ces rebelles ont également pillé plusieurs biens de la population. La circulation a été suspendue pendant presque toute la journée. De nombreux véhicules de transport en commun et des marchandises se sont arrêtés dans les localités proches des zones de combat. Cette attaque a entraîné le déplacement massif de la population. Nous avions tenté de joindre le porte-parole des FARDC, mais en vain. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Dans le territoire de Walikale au nord Kivu, au moins 6 morts dont 3 civils d'importants dégâts, c'est le bilan provisoire des affrontements samedi dernier entre deux factions du groupe armé NDC rénové, notamment celle de Guidon, Chimirai et Bouira Gilbert à Mutongo. Mutongo, c'est le groupement, dans le groupement Yana. Le député provincial Prince Kiangi, élu de Walikale, parle d'une centaine de morts parmi les combattants de deux factions rebelles depuis juillet 2020 jusqu'à ce jour. Sifa Maguru pour les détails.
Un calme apparent s'observe depuis lundi matin dans la région de Mutongo après les accrochages de samedi dernier. La population reste terrée dans ces lieux de refuge, des peurs, des représailles des combattants de Guidon. Les villages de Mutongo étant occupés pour le moment par les combattants de Bouira. Dans un communiqué de presse du 14 février, les députés provinciaux élus de Walikale et Prince Kiangi dénoncent les regains des affrontements entre ces deux factions ayant causé plusieurs conséquences, notamment les déplacements massifs des populations et l'incendie des maisons. Selon lui, depuis juillet 2020, on a enregistré une centaine de morts et de blessés parmi les combattants des deux factions rebelles, des pillages des biens et des milliers de déplacés civils sans assistance. Cet élu de Walikale parle également des dizaines de villages des groupements Ihana, Kisimba, Luberiki et Utunda où la situation est inquiétante. Il appelle les deux parties à déposer les armes, mais aussi au FARDC de revoir leur stratégie de traque contre le groupe armé. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, plusieurs cas de vol à main armée sont enregistrés ces derniers temps sur la ville de Mbujimayi. Les bandits opèrent en toute quiétude en plein centre-ville. La population lance un cri d'alarme auprès des autorités. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise affirme que de nouvelles stratégies seront adoptées pour juguler cette insécurité. Explication Esther Ndalafina.
Il ne se passe un jour sans entendre des coups de feu la nuit en Mbujimayi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des coups de feu nourris ont retenti depuis 1h du matin au quartier Bubanji en plein centre-ville de Mbujimayi jusqu'au petit matin. Pas plus tard qu'hier, les habitants du quartier Nkourousse n'ont pas fermé l'œil. Témoignage d'un habitant.
On n'a pas pu dormir d'une heure du matin jusqu'à 4h. Il y avait des sifflets, trop de bruit, l'arme qui retentissait. On dit qu'il y a un couvre-feu. Mais comment se fait-il qu'il y a des brigands qui agacent les gens? Moi, je ne comprends rien.
Suite à l'insécurité grandissante, les femmes ménagères demandent aux autorités de se pencher sur cette question.
Chaque jour, la nuit, les voleurs viennent. Des coups de feu, la nuit, il n'y a pas la paix. Que les autorités s'occupent de nous pour que nous puissions dormir.
Au commissariat provincial de la PNC, de nouvelles stratégies sont adoptées pour juguler l'insécurité. Roger Singa, commissaire provincial de la PNC.
Je crois que c'est un problème de dysfonctionnement au sein de nos unités. Le couvre-feu, c'est une opération, mais les autres servitudes également doivent continuer. La patrouille doit continuer. J'interpelle les commandants dans les secteurs desquels il y a ces cas-là. Et nous nous employons pour faire face à ça.
La PNC annonce avoir mis la main sur quelques bandits qui opéraient dans plusieurs coins de la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Plusieurs quartiers de la ville de Bounia sont dans le noir depuis quelques mois, malgré la dotation par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, des 4 transformateurs à la population de l'Ituri pour améliorer la desserte en électricité. Certains habitants dénoncent la mauvaise gestion de ces équipements par la Sokimo, qui, selon eux, a démontré ses limites dans la fourniture du courant électrique. D'autres, cependant, qui ont été raccordés après plusieurs mois, saluent cette action de l'État. Ezekiel Mouzalia nous fait le point.
C'était au cours du mois de novembre dernier que la question sur la gestion de ces 4 transformateurs, dont du chef de l'État à la population de l'Ituri, a commencé à susciter des remous au sein de plusieurs couches sociales. Cependant, depuis peu, certains habitants restent dans le noir et d'autres déplorent la qualité du courant fourni par la Sokimo. Témoignage.
Il y avait le délestage depuis une année, mais ces derniers temps, on a vraiment les courants.
Au moment où nous sommes avec les réchauds dans la maison, les fers à repasser, les frigos, ça ne fonctionne.
On a acheté les panneaux parce qu'on n'avait pas les courants depuis une année.
Contacté, le directeur de l'électro-Kimo renseigne que 3 transformateurs sur les 4 envoyés par le chef de l'État étaient en bon état. L'ingénieur Ngiti Kabaseke.
Sur les 2 machines, il y a une machine qui a connu un problème. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je crois que la tension Nous sommes en train de nous battre pour améliorer.
Le ministre provincial de l'énergie justifie la problématique de la distribution du courant électrique que fournit la Sokimo par le fait que la centrale électrique de Boudana est devenue vétuste. Cependant, pour sortir de ces méli-mélos, les ménages non desservis en électricité recourent toujours à l'utilisation des panneaux solaires. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 9 combattants étrangers fidèles au régime en Syrie ont été tués le lundi 15 février avant l'aube dans des frappes israéliennes contre des dépôts d'armes près de Damas, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme cité par l'AFP.
L'invité.
Et c'est le professeur Cyril Moussila, chef du département d'études doctrinales et des recherches stratégiques au Collège des hautes études et stratégies de la défense. Il s'entretient avec Billy Van Lutumba sur la question de la réforme de la communauté économique des États d'Afrique centrale CAC. Et c'était à l'occasion de l'ouverture de la session spéciale des cours au sein de cette institution des forces armées de la RDC. On l'écoute.
Professeur Cyril Moussila, bonjour.
Bonjour.
La réforme de la CEAC, quelle pensée stratégique de paix, de sécurité et d'intégration pour l'Afrique centrale? Pourquoi penser seulement à la réforme de la CEAC en cette occasion?
Parce que la RDC et les colloques l'ont montré, c'est le pays poids lourd de la CEAC. D'abord par sa taille et puis par sa population qui fait à peu près la moitié de toute la population des États membres de la CEAC. Et cette institution, la communauté économique d'État d'Afrique centrale, au sein de laquelle la RDC a joué un rôle important dans sa fondation en 1983, montre en fait que depuis qu'elle est créée, on a atteint un certain nombre d'objectifs où on réfléchit sur les objectifs qu'on devait atteindre et puis on bascule plus de 30 ans après sur des enjeux nouveaux. C'est l'objectif de la réforme en fait. C'est que depuis que cette institution s'est créée, maintenant on a des questions nouvelles. Par exemple, le terrorisme. Mais également des enjeux un peu plus pointus. On parle d'Mbororo qui descend du nord, du bassin du lac Tchad. Il faut maintenant passer un certain nombre de caps et intégrer un certain nombre de questions. Question de sécurité, de paix, mais aussi question d'intégration économique régionale. Comment intégrer les économies? Comment intégrer les déplacements de population? Et l'objectif de ces séminaires, c'était de dire d'où est partie la CEAC pour te dire maintenant il faut réformer.
Qu'est-ce qu'on doit leur faire? Parce qu'il y a beaucoup de défis que vous avez relevés, et surtout en ce 21e siècle.
Ce qu'on doit faire dans la CEAC, c'est ce que le Congolais, à travers nous, par exemple, séminaire, nous avons imaginé qu'on doit faire. On a tiré un certain nombre de questions. Par exemple, cette institution qui est la nôtre doit sortir de son carcan typiquement administratif pour dire être présente sur le terrain. Concrètement, les questions de sécurité transfrontalière. Comment la CEAC peut, par exemple, avoir de sorte de dynamique de veille stratégique transfrontalière entre les États, mais basée au sein de la CEAC que de laisser le pays se débrouiller tout seul. L'aspect aussi infrastructure. En tout cas, il est connu que l'Afrique centrale est la région en Afrique où on circule le plus difficilement possible. On a difficilement des infrastructures routières par exemple ou ferroviaires qui rejoignent la capitale. Dans d'autres régions, on les a. Donc, cette idée-là que l'Afrique centrale a besoin d'une intégration plus approfondie autour de cette réflexion-là de jonction infrastructurelle nous a semblé importante ici là-dedans.
Et d'après vous, par rapport à la sécurité et à la paix dans la sous-région, quel dispositif interrégional est-il adaptable pour le traitement des conflits en Afrique centrale?
Le colloque a suggéré que, avant d'arriver à traiter des conflits, on passe par une étape qui me semble importante, ce qu'on appelle la veille stratégique, l'anticipation. On a besoin de ces mécanismes-là. La CEAC a un mécanisme qui s'appelle le MARAC, le mécanisme d'anticipation, de veille. Mais il faut le concrétiser, pas seulement le loger à Libreville où se trouve le siège de la CEAC, mais l'installer dans tous les points stratégiques, névralgiques de la sous-région. C'est-à-dire, par exemple, sur les frontières est de la RDC, qui sont le plus insécurisées, entre guillemets, depuis une vingtaine, une trentaine d'années.
Le professeur Cyril Moussila, partant du principe de subsidiarité au niveau de l'Union africaine tend à recourir, à privilégier les actions prises par une organisation sous-régionale. Pourtant, au niveau de l'Afrique centrale, à CEAC, il y a CRGL, il y a CPGL, il y a CEMAP et tout ça. Est-ce que cela ne freine pas cette collaboration avec directement l'Union africaine pour traiter des problèmes au niveau régional.
Oui, effectivement, c'est un des enjeux qu'on a soulevé. En fait, un des freins en Afrique centrale, où on a une superposition, une juxtaposition même, d'institutions sous-régionales. La CPGL qui réunit 3 pays, la CIRGL qui en réunit 10, la CEMAC qui réunit d'autres, et puis la SADC qui vient aussi piocher dans l'Afrique centrale, et puis il y a le COMESA qui prend aussi quelques pays d'Afrique centrale. Donc en réalité, une tellement de multi-appartenance qui fait que le résultat final se neutralise et la sous-région n'est pas efficace sur ces questions-là. En tout cas, dans ce colloque, ce qu'on a suggéré, c'est la rationalisation de ces institutions. Au lieu d'en avoir 4-5, en fait, en réalité, qui suivent les mêmes objectifs d'intégration, de sécurité, dépasser nos idées de chacun souverain, décide ce qu'il veut, de dire, bon, mettons ensemble un peu ces idées-là, dans l'élan du 21e siècle, hein, c'est-à-dire, en gros, dépasser cette idée qu'en plein 21e siècle, on a besoin de tout le monde pour être uni. En fait, la multi-appartenance, là, toutes ces institutions ont fragilisé l'Afrique centrale. Donc, cette rationalisation peut parvenir à ce qu'on ait un bloc unique capable de se décider rapidement pour qu'on puisse intervenir.
Professeur Cyril Moussila, merci.
Merci beaucoup, Samoa, de vous remercier pour être venu m'interroger sur ce colloque.
Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de ce journal. Élisée Chikota était à la coordination sous la supervision d'Alain Irung et Mimi Kindou, la mise en onde. Vous pouvez retrouver ce journal comme l'ensemble de nos informations sur www.radiocapi.net. Merci.